ce podcast d'après.
À son lancement en octobre 2020, Comment, c'était un ou une invitée interrogée à deux voix par épisode. Puis ce format a évolué lentement, jusqu'à voir son canevas d'origine éclater. Après les interviews en tête-à-tête, on a testé les rencontres participatives où les questions étaient posées directement par le public, puis on s'est passionné pour les interviews croisées. C'est déjà le cas dans le précédent épisode de Comment consacré au droit à l'alimentation. Et c'est encore le cas cette fois à travers une rencontre menée à quatre voix avec, d'un côté, Fabienne Fischer, conseillère d'État du canton de Genève en charge de l'économie et de l'emploi, et de l'autre côté, Michel Bowens, informaticien, cyberphilosophe, théoricien du pair à pair aux commandes de la P2P Foundation.
Dans le bureau de la ministre Fabienne Fischer, au cœur du département de l'économie et de l'emploi, nous avons capturé une discussion autour des possibles d'une économie collaborative, véritablement démocratique, et d'une société des communs pour Genève. Je suis Antonin Calderon, et avec David Brun-Lambert, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Commun, le podcast d'après, saison 3.
Fabienne Fischer et Michel Bowens, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Antonin à ma gauche, on est ravis de vous, rencontrer. Et Fabienne Fischer, on est ravis que vous nous accueilliez ce début de semaine. Une actualité, le 18 novembre dernier, on apprenait que l'État validait finalement la proposition d'Uber pour se mettre en règle. Madame Fischer, est-ce que vous nous faites rapidement l'historique entre l'État de Genève et Uber, ce bras de fer qui tourne finalement à l'avantage plutôt des citoyens et des citoyennes, je crois?
Alors, l'historique, sans rentrer dans les détails, c'est que le service de lutte contre la police du commerce et travail au noir du canton de Genève a adressé une décision à Uber en 2019, indiquant que Uber devait considérer ses chauffeurs comme des salariés. Cette décision a été contestée par Uber devant les tribunaux. Et puis, le temps que tout cela chemine à travers toutes les instances de juridiction, l'arrêt du tribunal fédéral, qui est la plus haute instance judiciaire de Suisse, est tombé tout début juin. Il a été rendu le 30 mai. Il a été adressé aux parties le 4 juin. Et c'est à cette date-là qu'on a appris que le tribunal fédéral confirmait la décision prise par la police du commerce et lutte contre le travail au noir du canton de Genève. Concrètement, dans la foulée, nous avons considéré que cette décision impliquait l'arrêt d'Uber jusqu'à sa mise en conformité, puisque c'était le contenu de la décision qui avait été rendue en 2019. Décision est tombée un vendredi et le samedi, et Uber a été arrêté, et ce pendant une dizaine de jours. Pendant cette interruption des activités d'Uber, on a eu affaire à des réactions un peu croisées. D'une part, Uber était évidemment très mécontent, mais les chauffeurs aussi, qui disaient « nous, on ne peut plus travailler, on n'a plus de revenus, on n'a plus rien ». Dans une situation d'incertitude juridique encore pour eux, et donc il y avait beaucoup d'inquiétudes. Dans ce contexte-là, j'ai entrepris des discussions avec Uber qui ont permis d'arriver à un premier accord, très important pour toute la suite. Par cet accord, Uber reconnaissait qu'en 2022, au moment où on a reçu l'arrêt du tribunal fédéral, les termes de la décision de 2019 s'appliquait encore. Et ceux qui connaissent Uber savent très bien qu'une de ses spécialités, c'est entre le moment où une procédure judiciaire est intentée et le moment où la décision tombe, ils changent deux, trois choses dans leur contrat, dans leur relation avec les chauffeurs ou dans la manière dont la prestation est offerte. Et ensuite, ils viennent dire, au moment où la décision judiciaire tombe, « Ah, on a changé le modèle, alors c'était valable au moment où vous l'avez rendu, mais ça ne l'est plus ». Donc, en reconnaissant au mois de juin 2022 que les conditions visées par la décision 2019 étaient toujours valables, eh bien, ça a permis de dire « Ok, à partir de là, on ne va pas repartir dans une nouvelle bataille judiciaire, mais on va pouvoir régler d'abord le passé, c'est-à-dire tous les arriérés de salaire qui pouvaient être dus aux chauffeurs. »
35,4 millions.
Alors ça vient beaucoup plus tard, mais effectivement, c'est le montant auquel on est arrivé, qui se compose de 15,4 millions pour la part employés des assurances sociales. Hein, vous savez, tout le monde en Suisse sait que les assurances sociales, il y a une part qui est à charge des employés et puis une part qui est à charge des employeurs. Uber a déclaré s'engager à prendre en charge la totalité de la part employée des assurances sociales depuis qu'ils sont arrivés en Suisse et jusqu'à aussi longtemps qu'ils sont restés employeurs. Et puis si Uber dit qu'il va payer ce montant, concrètement, il va devoir payer un montant équivalent pour la part employeur. Donc on avait estimé, sur la base des données à notre disposition, que ce montant représentait 15,4 millions pour la part employée. Donc s'ils reconnaissent ce montant-là pour la part employée, forcément, ils vont devoir payer au moins la même somme pour la part employeur. Et puis à quoi s'est ajouté 4,6 millions d'indemnités kilométriques pour les chauffeurs. Cette indemnité, elle était due parce que quand on est indépendant, chaque personne active comme indépendante paye ses propres charges professionnelles. Tandis que quand vous êtes employé, c'est l'employeur qui doit payer les charges professionnelles. Alors évidemment, le leasing du véhicule, l'acquisition du véhicule, les frais d'entretien du véhicule, les habits nécessaires selon les prescriptions d'Uber pour exercer, tout ça, c'est des charges professionnelles que les chauffeurs ont exposées eux-mêmes, mais qui, dans la requalification en contrat de travail, devaient être prises en charge par Uber. Alors là, de nouveau, on a procédé à toute une série de calculs sur la base des données qu'Uber avait mis à notre disposition, celles que les chauffeurs avaient mis à notre disposition, ce qui nous a permis de faire un calcul qui nous a conduit à considérer que l'engagement d'Uber de payer 4,6 millions au titre d'indemnités kilométriques pour les chauffeurs respectait les exigences légales.
Je me tourne donc suite à ces explications et ce contexte vers Michel Bowens, qui est donc un expert, un théoricien notamment de l'économie collaborative ou des économies collaboratives, qu'on dénomme de plus en plus économie de plateforme. Et donc Uber est à titre un exemple qui a même donné son nom au terme d'ubérisation de l'économie, qui est un des acteurs majeurs depuis une dizaine, quinzaine d'années. Qu'est-ce que ça vous fait dire d'entendre ça de la réalité du coup genevoise? Qu'est-ce qui est symptomatique de ces économies de plateforme et de cette ubérisation de l'économie d'après vous?
Justement, je crois que ce qui est important, c'est de voir l'innovation énorme que sont les plateformes, puisqu'il y avait des marchés et des firmes, et puis on a inventé en fait une nouvelle forme organisationnelle pour faire l'économique, qui sont les plateformes. Et le cas d'Uber est particulièrement gênant, parce que là, c'est une firme qui contrôle une plateforme. Donc moi, je comprends tout à fait ce que l'État de Genève veut faire, et c'est tout à fait normal et bien, c'est-à-dire il faut protéger l'égalité des citoyens et les droits sociaux et civiques, etc., contre des firmes qui sont quand même avec une attitude assez prédatrice par rapport à tout ça. Mais à mon avis, donc, ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire que ça va pas assez loin dans le sens que je crois qu'on a vraiment besoin de politiques publiques qui créent des alternatives. Quand on fait une plateforme privée, il y a une fuite d'argent énorme du local, alors que c'est du faux au pair à pair. Mais je m'explique. Donc du pair à pair, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on a la capacité de mettre des gens ensemble d'une façon non territoriale. Donc c'est-à-dire, on a une plateforme digitale qui permet à l'offre et la demande de se rencontrer, mais rien ne dit que cette plateforme doit être la propriété d'une entreprise privée. Parce que le fait que ce soit l'entreprise privée, évidemment, mène à toute une série de dérives qui sont peut-être pas très positif, parce qu'en fait, on va d'une division du travail classique vers une distribution de tâches. C'est un peu comme au capitalisme du 19e siècle. Donc les gens, les ouvriers, étaient payés à la tâche. Et on s'est battu pendant des centaines d'années pour tout le travail en même temps, et pas à la pièce, parce que si c'est à la pièce, quelqu'un qui est faible, qui est malade, ou quelqu'un qui détruit sa santé pour doubler son salaire, tout ça, ça devient... C'est les ouvriers qui sont en compétition à ce moment-là. Une fois qu'on a un salaire, c'est plutôt les firmes qui vont être en compétition pour attirer les ouvriers. Et donc, il faudrait venir, à mon avis, à premièrement, donc, ce que fait l'État de Genève, c'est revenir au salaire, mais trouver des formules de salariat innovants, comme par exemple Smart. Alors, je dis tout de suite ce que j'ai travaillé avec eux, donc Société Mutuelle des Artistes, où...
C'est en Europe, hein, ça, c'est basé en Belgique.
Dans 9 pays, je ne sais pas s'ils sont présents en Suisse. Mais donc, on s'engage chez Smart, qui est une coopérative. Smart fait les factures et on se paye un salaire. donc avec les factures. Donc on choisit ses clients, on se paye un salaire, et le salaire, on est employé de la coopérative, et comme c'est une coopérative, on est en même temps employé et employeur. Mais donc on est un salarié autonome. Et moi, je trouve ça vraiment une innovation légale tout à fait intéressante. Alors l'autre innovation légale et institutionnelle, c'est les coopératives de plateforme. Là, c'est carrément dire, ben, Uber, c'est trop prédateur. Airbnb, ça a des effets dévastateurs pour le centre-ville. Et est-ce qu'on ne peut pas soutenir, en fait, donc des plateformes qui sont propriétés des acteurs de plateformes?
Et du coup, justement, vous parlez souvent dans vos écrits, vous mettez en dialogue des plateformes ou une économie collaborative redistributrice et extractrice. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser, du coup, qu'est-ce qui différencie ces plateformes à ce niveau-là?
D'accord. Alors, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais je crois vraiment qu'il y a un shift du capitalisme, du travail salarié vers les communs. Et donc, aujourd'hui, des firmes comme Google, Facebook, Uber, Airbnb, c'est plus des firmes qui engagent des gens pour faire un produit qui sera vendu plus cher, ce sont des gens qui nous mettent ensemble. Donc en fait, c'est plutôt des faux communs. Donc il y a un pair-à-pair, on va dire, apparent, mais tout ce qui est derrière, tout ce qui est caché, est centralisé. Et donc en fait, on exploite nos échanges et nos collaborations. Donc c'est un capitalisme qui exploite la collaboration. C'est ça, c'est différent. Et donc, moi, je crois qu'il y a toute une politique à mener, justement, pour tenir compte de ce fait. Parce que le grand problème, moi, j'appelle ça la crise de la valeur. C'est-à-dire, de plus en plus de gens s'engagent à contribuer à des communs, mais beaucoup de ces communs ne sont pas rémunérés. Et donc, on a vraiment un problème structurel. Donc, au plus les gens font du commun, et il y a une frange de ces gens qui sont payés et une frange de ces gens qui ne sont pas payés. Je donne l'exemple, par exemple, de l'open source, dans le logiciel libre, Linux. C'est très bien, Linux. Mais 25% des gens de Linux ne sont pas payés. Donc quand on crée des systèmes ouverts et digitaux, on autorise la contribution spontanée et du coup, on crée une économie non rémunérée. Et donc, il y a un clash pour moi entre l'économie classique qui dit que la valeur vient, on va dire, de la rareté, donc le travail ou les ressources qu'on va acheter en tant que marchandise et puis on va la revendre plus cher. Or ici, on sort de la marchandise et notre société n'est pas du tout organisée pour ça. Et donc, dans cette période de transition, on voit qu'il y a des problèmes. Et donc moi, je pense vraiment que la vieille lutte, c'était entre le travail et le capital. Qui reçoit quoi? La nouvelle lutte, c'est entre les commoneurs et les plateformes. Qui prend quoi de nos échanges? Quel pourcentage de nos échanges est extrait?
Donc les commoneurs, c'est bien les utilisateurs de la plateforme, c'est-à-dire les chauffeurs et les personnes
ceux qui contribuent au commun, voilà.
Commun, le podcast d'après.
Si vous entendez du coup Michel, vous Fabienne, en tant que ministre chargée de l'économie et de l'emploi, comprend bien aussi en vous écoutant que vous êtes aussi prise entre finalement des chauffeurs dont on a les acquis sociaux qui sont bafoués ou pas reconnus jusqu'à la mise en régulation, puis en même temps si on arrête, si on les empêche de travailler, ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus de travail, et de l'autre côté une firme aussi multinationale qui du coup joue sur tous les cantons, sur tous les pays, et donc il y a aussi une capacité du coup peut-être à aussi se jouer peut-être des règles selon les États. Et vous avez du coup une position, mais au niveau seulement du canton de Genève. Comment est-ce que vous, peut-être, vous voyez, vous accompagnez, vous percevez des collaborations peut-être intercantonales au niveau suisse, mais aussi intersectorielles peut-être avec des fêtières économiques à Genève, avec les acteurs économiques eux-mêmes? Comment est-ce que finalement l'économie genevoise réagit ou s'organise face aussi à ces acteurs, de ces géants des plateformes qui viennent faire collaborer et extraire finalement du capital de la collaboration des Genevois ici, sur le territoire?
J'aimerais peut-être revenir d'abord sur la question du salariat et du travail à la pièce ou du travail où on paye un temps. C'est vrai que les chauffeurs Uber ou les personnes qui sont actives sur les plateformes ont tendance à être payées à la pièce, et ça c'est quelque chose qu'actuellement au niveau suisse et dans le cadre de la décision genevoise sur Uber, on ne veut pas admettre. C'est un système qui conduit à payer les chauffeurs à la minute pour le temps de course, en disant vous travaillez du moment où vous acceptez une course, le temps d'approche, jusqu'au moment où vous avez déposé votre client, et puis ensuite vous n'êtes plus payé. Et ça nous semble quelque chose qui n'est pas conforme aux exigences du droit suisse du travail. Et donc, un des enjeux, c'est de définir un temps de travail qui permette de salarier non pas une tâche, conduire une personne d'un point A à un point B, mais de salarier le fait qu'un chauffeur se mette à la disposition d'un employeur et tout le temps qu'il passe à la disposition de cet employeur doit être rémunéré. La question, évidemment, c'est de savoir comment on le calcule. Et ça, je ne vais pas rentrer ici dans des détails techniques, mais c'est un des très gros enjeux pour nous, à Genève et au-delà, en Suisse, de ce qu'on appelle la régulation des économies ou des entreprises de plateforme, d'arriver à déterminer ce temps de travail, rester sur ce principe de dire, quand on est à disposition de l'employeur, eh bien, on doit être salarié. Le deuxième point sur lequel j'aurais voulu revenir, c'est cette tension entre des offres de prestations économiques locales face à ces géants des plateformes. Ce qu'on observe pour toutes les plateformes que vous avez évoquées, Michel et d'autres sans doute, hein, c'est que leur logique, c'est d'occuper massivement le domaine de la prestation de services envisagée, si massivement qu'ils deviennent incontournables et que aucune autre plateforme ne peut vivre à côté d'eux. Et donc, ils travaillent même à perte pendant des années et les financeurs acceptent de renflouer, de financer sans retour sur investissement pendant des années parce que l'objectif est d'occuper assez, de manière assez dominante le marché pour qu'on soit un acteur totalement incontournable. Alors, sachant cela, évidemment que le développement d'activités économiques locales sur ces prestations de services est extrêmement intéressant et important, mais extrêmement difficile à réussir sous l'angle économique. Parce que si vous avez une coopérative de chauffeurs au niveau genevois qui se met en place, ils n'auront pas la possibilité, ils n'auront pas les reins assez solides, ils n'auront pas de financeurs qui viennent les financer pendant des années à perte jusqu'à ce qu'ils s'imposent sur le marché genevois. Même si l'État est dans sa politique économique, et c'est ce que je porte aussi ici au département de l'économie et de l'emploi, c'est une promotion économique qui vise le développement de l'économie locale des entreprises qui sont installées ici, l'État n'a pas pour vocation de financer l'économie ou des entreprises locales pendant des années. Donc on est là dans une situation où on n'a pas encore trouvé la solution. En revanche, je pense que l'État doit réfléchir, et j'ai commencé un certain nombre de discussions dans ce sens-là, à réfléchir autour de prestations publiques analogues, et je pense notamment en termes de mobilité au transport public genevois, pour dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir développé comme prestations qui seraient non pas forcément des prestations publiques, mais des prestations au public, mais comprises dans cette vision de transport public, et de voir si, dans ce contexte-là, on ne peut pas avoir des entreprises qui graviteraient autour de l'établissement public, hein, sous des formes encore à inventer, à réfléchir, mais qui permettraient de répondre aux besoins de la population, parce que, comme vous le disiez, Michel, les gens, c'est la prestation de chauffeur VTC est une prestation qui est de plus en plus demandée. On ne va pas pouvoir aller contre. Donc, répondre à ce besoin, mais dans des conditions qui correspondent à une vision de l'économie locale.
Alors, ces nouveaux modèles qu'évoque Fabienne Fischer, en tête, vous avez lesquels, Michel ?
Je crois que la première chose, parce qu'évidemment, l'État doit rester neutre par rapport aux offres commerciales, mais je crois qu'on doit changer le concept de la valeur. C'est-à-dire que la valeur aujourd'hui, ça doit être quelque chose qui n'est pas uniquement financier, mais qui doit aussi tenir compte des impacts positifs et négatifs sur les êtres humains, donc le capital humain et puis les capitales, on va dire, naturels. Par exemple, on pourrait dire passer du monocapitalisme financier à un multicapitalisme qui tient compte des trois domaines en même temps. Donc déjà, il faut redéfinir la valeur. Une fois qu'on a redéfini la valeur, on peut très bien voir, par exemple, que le partage de voitures associatif et coopératif a un effet extraordinaire sur l'utilisation de matière énergie. Donc une voiture partagée, quand c'est bien fait, ça peut remplacer 9 à 13 voitures privées avec la même liberté de transport. Or, Uber met les chauffeurs en compétition. Donc ils vont rouler pour être au bon moment pour trouver le client. Et donc Uber, c'est exactement le contraire Donc ils vont plus utiliser la matière énergie et donc ils ne vont pas tenir cette promesse écologique qui au départ était inclue dans ce nouveau modèle. Et donc si on prend un nouveau modèle de valeur, on peut dire, nous, service public, on peut soutenir plus des firmes et des coopératives qui ont un impact bénéfice complet plutôt que des firmes qui ont un impact financier mais qui ont un impact négatif sur les deux autres points. Je trouve que c'est effectivement le cas. Alors, quelle forme ça peut prendre? Moi, je suis assez inspiré par le modèle italien. Donc, on appelle ça le quintuple helix, donc le helix à cinq pointes. Donc, c'est en fait la ville avec le secteur commercial, les secteurs de recherche, les ONG formelles, qui vont donc quatre, qui vont aider le cinquième, c'est-à-dire les associations civiques orientées vers les communs. Donc en Italie, il y a 250 villes aujourd'hui qui font ça. Il y a 1 million d'Italiens qui sont impliqués dans ces projets. Donc ça a commencé à Bologne avec la régulation de Bologne sur la régénération des communs urbains. Et donc un groupe de citoyens en Italie peut dire « Nous voulons nous occuper de ce bien commun ». Il y a une négociation qui se fait avec la ville et la ville devient le régisseur de soutien. Donc ce n'est pas uniquement économique, hein, ce n'est pas uniquement donner de l'argent, mais c'est aussi, par exemple, adapter les règles. Ça peut être mettre à disposition des bâtiments. Et donc il y a une négociation entre les quatre acteurs pour aider le cinquième, donc cette innovation sociale. Alors ça, je voudrais quand même dire, on peut faire ça d'une façon fractale. C'est-à-dire, justement, pour être assez fort contre les grands monopoles, pourquoi pas faire des ligues de villes, par exemple. Donc, en fait, on a une localisation de ces services, donc une sorte de mutualisation de l'économie locale, mais avec des coopératives transnationales, translocales, qui détiennent, en fait, tous les protocoles de coopération. Donc, les règles, l'infrastructure. Et on voit ça déjà dans le monde open source, dans les logiciels partagés, le design partagé. Donc, il y a plein de gens qui travaillent dans le monde entier, mais il y a des associations qui gèrent l'infrastructure. Par exemple, le Wikipédia, il y a la Wikimedia Foundation qui cherche des fonds pour pouvoir financer les serveurs, etc., etc. Et je crois qu'on devrait trouver un modèle similaire où des villes et des régions peuvent se coaliser. Et donc au niveau local, il y a la petite banque coopérative, solidaire, etc., mais avec un équivalent, en fait, au niveau translocal, où il y a quand même du capital d'impact, du capital solidaire, du capital coopératif. Tout ça, ça existe. Et donc, en fait, agencer pour être fort au niveau translocal et transnational aussi, pas simplement local. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que Fabienne a dit. Donc, quand on est uniquement dans le local, on ne peut pas résister à cette force énorme de ces multinationales qui existent aujourd'hui.
Donc là, vous présentez le modèle du coup des communs, donc finalement des entreprises associatives ou coopératives qui sont multi-acteurs, qui ont une gouvernance partagée et qui sont à but non lucratif ou lucrativité limitée, qui vont rendre du coup à leurs utilisateurs. Ça répond pas encore à la question de comment on renverse une logique qui est aussi du first takes all, où le premier, ou peut-être plutôt la plus grande plateforme prend tout. Et c'est ce qu'expliquait Fabienne avec Uber, avec qui a pris toute la place. Et comment ces logiques finalement translocales, ou au niveau local, mais aussi régional ou continental peut-être, comment est-ce qu'on peut renverser cette logique du fait que toute la place dans ces services est prise par quelques acteurs qui ont presque un monopole, un oligopole là-dessus? Comment est-ce qu'on peut renverser ces logiques d'un point de vue déjà conceptuel ou peut-être de ce que vous voyez ailleurs en Europe ou dans le monde?
Alors, il y a un mouvement qui s'appelle, que vous connaissez sans doute, qui est l'économie du bien commun de Christian Felber. Je crois qu'il est autrichien. Et ça marche assez bien dans les régions almaniques. En fait, c'est une comptabilité d'impact avec les 17 SDG et qui permet donc de juger l'activité d'une entreprise par rapport à son impact et pas seulement le financier. Je crois que le financier compte pour 17%. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a déjà des villes et des communes qui expérimentent avec ça. Donc il y avait une ville en Flandre, Rousselaere, que vous connaissez sans doute pas, mais qui est une ville moyenne en Flandre, et qui avait donc commencé une expérimentation où les subsides pour le plan régional de développement dépendaient du score d'impact de ces entreprises. Et ça me paraît une voie potentielle. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, on est neutre en tant qu'autorité publique, mais on a des critères, et selon ces critères, on peut aider et moins aider d'autres entreprises. Donc, peut-être pour amender un peu ce que tu as dit, Antonin, moi, je ne crois pas que l'autorité publique peut défendre à des entreprises privées de participer, mais c'est une conception de valeur. C'est-à-dire, s'il y a un commun et que le commun est important pour le succès de ces entreprises, ils vont donc être codépendants du même commun, les règles, les protocoles, les infrastructures, etc. Du coup, c'est dans l'intérêt même de l'entreprise d'avoir, on va dire, un comportement qui respecte ce commun dont ils sont codépendants. Donc le modèle, c'est par exemple IBM avec Linux. Donc quand IBM a shifté vers Linux il y a une quinzaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'avant, chaque entreprise faisait les mêmes logiciels qu'ils avaient tous besoin. Donc à un moment donné, ils se disent, c'est mieux, plus intéressant de se mettre sur Linux. Donc on va tous faire ces mêmes logiciels non compétitifs. Et IBM a promis, donc nous gagnons, on dépense 90% de moins pour nos infrastructures internes et on va mettre 10% par an en tant que cofinancement de l'Unix. Donc on voit bien là un changement de comportement où même une grande entreprise se rend compte qu'elle est codépendante d'un commun, donc un logiciel partagé avec d'autres entreprises. Et c'est ça qui a fait évidemment que Linux est devenu dominant chez les serveurs des grandes entreprises.
Venir vers vous, Fabienne Fischer, dans votre aussi réalité politique et économique, comment ça résonne du coup ces concepts, ces modélisations et aussi ces inspirations du nord de l'Europe, comment ça résonne dans la réalité genevoise pour vous ?
Ça résonne fort. C'est vrai qu'il y a tout un travail à faire dans le domaine des objectifs de politique économique en lien avec l'urgence climatique, de ne pas accepter les conflits entre politiques publiques et être vraiment, au contraire, dans le fait de répondre par une même action à l'exigence de l'urgence climatique, à ce qu'elle impose, et à la prospérité de l'économie genevoise en ce qui concerne mon dicastère. Et ça passe par cette question de définir les critères. Vous avez évoqué les 10 objectifs de développement durable ODD de l'ONU, les 17, pardon. Oui, mais ça doit se traduire, et je rejoins aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de quelles sont les valeurs qu'on prend en considération. Ça doit se traduire par la création de nouveaux indicateurs. Aujourd'hui, l'activité économique, elle est à peu près gouvernée à quasiment 100% par le PIB. Est-ce que le PIB croît ? Est-ce que le PIB décroît ? Et on voit bien aujourd'hui qu'en lien avec les enjeux climatiques et environnementaux, cet indicateur n'est pas pertinent. On doit aujourd'hui vraiment développer des indicateurs, comme celui que vous évoquiez, pour pouvoir évaluer l'impact de l'activité des entreprises et, dans un même mouvement, inciter les entreprises à transformer leur mode de production et, d'un autre côté, réglementer, parce que très vite, on arrive à des distorsions de concurrence qui sont ingérables aussi entre des entreprises qui payent le prix des transformations pour la durabilité de leur activité et celles qui vont continuer à faire les cow-boys. Et donc, si l'État ne réglemente pas, eh bien, on encourage finalement ou on favorise ceux qui ne font aucun effort. Donc, ça, tout ça, pour moi, c'est des enjeux à très court terme. Et il faut arriver maintenant, dans nos politiques publiques, dans nos objectifs et dans les réglementations qu'on met en place, à inciter tout de suite ceux qui se donnent la peine de travailler sur le fait que leur activité économique soit moins de matière, moins d'énergie et plus de biodiversité. Je parle de ça parce que la conférence de Montréal aujourd'hui nous rappelle vraiment avec beaucoup d'acuité que ce qui est bon pour la biodiversité est toujours bon pour le climat, mais que l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc voilà pourquoi je rajoute cet élément-là. Mais donc voilà, on doit aujourd'hui arriver à faire cette transformation de l'approche, de l'apport des activités économiques à la société, à la prospérité de tout le monde.
On arrive bientôt au bout de l'entretien. Peut-être, Michel, si vous étiez en charge de l'économie ou de l'emploi d'une ville comme Genève, vous étiez à la place de Madame Fischer, qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour développer ces communs, ces plateformes numériques? Quels critères vous mettriez en place? Quelle organisation, finalement, que proposait l'État à destination des acteurs économiques, vous auriez envie de mettre en place?
Je voudrais introduire le concept de démocratie contributive. Pourquoi? Parce que, donc, une des choses qu'on a remarquées au niveau, par exemple, de l'alimentation. Donc, les villes qui ont vraiment réussi à changer leur économie alimentaire, donc, par exemple, Toronto, au Canada. La conclusion de ce rapport de Fian.be, c'était que toutes les villes qui avaient mis ensemble tous les acteurs autour d'un domaine particulier, donc l'alimentation, avaient réussi une transition alimentaire. Donc, il faut 10 ans de mise en réseau, de communication, de dialogue, etc. Mais surtout, ce qu'il faut éviter, c'est que les grands acteurs historiques freinent le processus. Par exemple, en Flandre, il y a une association de paysans qui est entièrement dans le modèle néolibéral et qui va dire « ça ne marche pas, il ne faut pas faire comme ça ». Et donc, ce qu'ils ont fait, par exemple, à Gand, c'est introduire les acteurs qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient le faire. Donc ceux qui, dans leur pratique, ont déjà démontré qu'ils agissent dans le cadre des limites climatiques, etc., mais on les fait entrer dans ces conseils, pas parce qu'ils sont représentatifs, mais parce qu'ils sont contributifs. Donc on leur donne une sorte de légitimité de transition. Et ça, donc ça, c'est ce que j'appelle la démocratie contributive. Donc c'est par leur acte qu'ils ont mérité leur inclusion dans ces conseils. Et du coup, il y a un équilibre qui se fait entre les grands acteurs historiques qui freinent un peu et ces acteurs extrêmement dynamiques. Donc, alors moi, je ferais ça vraiment d'une façon systématique. C'est-à-dire, il faut un conseil de transition pour l'habitat, pour l'alimentation, pour le transport, et il faut mutualiser. Alors, je voudrais apporter deux arguments. Donc, le premier argument, c'est l'argument de localisation. Donc, aujourd'hui, on dépense 2 ou 3 fois plus en matière énergie pour transporter que pour produire. Donc, en relocalisant la production, on peut déjà avoir un impact énorme sur tous les problèmes qu'on a aujourd'hui autour des ressources rares, etc. Mais le deuxième point, c'est la mutualisation. Donc, c'est en mettant ensemble des ressources. Donc, par exemple, ici à Genève, je viens d'apprendre qu'il y a un rapport qui montre que l'habitat coopératif est entre 25 et 40% moins cher que l'habitat capitalistique privatif. Donc on a des bons arguments pour faire une transition beaucoup plus systématique avec des conseils spécialisés et évidemment avec aussi une vision systémique. Donc il faut aussi les mettre ensemble parce qu'il y a plein de points de convergence. Donc je vous donnerai un exemple, puis je termine. Donc j'étais au Colorado, à Boulder, où il y a donc une économie de la drogue qui s'est développée parce qu'on a légalisé le cannabis. Du coup, ces gens ne peuvent pas mettre leur argent dans les banques fédérales, donc ils achètent des maisons. Et donc, du coup, les prix ont flambé de 1000%, je ne sais plus. Et donc, j'ai rencontré des gens d'une coopérative d'habitat qui avaient l'énergie renouvelable et un contrat AMAP. Et ils payaient $5 par jour pour leur nourriture. Dans un contexte où, avec les crises, la pandémie, et l'Ukraine et tout, on est quand même un peu dans une phase descendante économique, le fait d'épargner des coûts. Une chose à faire, c'est protéger les salaires, mais on peut aussi travailler sur maximaliser le pouvoir d'achat en mutualisant. Et voilà. Et donc, il faut travailler sur les deux flancs. Donc, je crois que ce qu'on fait ici à Genève, c'est protéger le salaire. C'est déjà très bien. Mais on peut aussi faire la deuxième étape, c'est qui est comment augmenter le vrai pouvoir d'achat en mutualisant les services régionaux.
C'est la troisième saison de Comment qu'on fait avec Antonin. Alors, il y a une vingtaine d'interviews avec des acteurs et des actrices du territoire, très inspirants, chacun apportant parfois des solutions opérationnelles, là maintenant, des trucs très concrets, et loin d'être des hypothèses pour la plupart, des choses qui ont déjà été expérimentées. Et j'imagine que vous, Fabienne Fischer, vous êtes aussi en bout de course et vous recevez aussi ce type de résultats, ce type aussi de schémas qui ont été testés sur le territoire et qui fonctionnent et qui ne demanderaient qu'à être poussés pour fonctionner à une échelle plus importante encore. Et apporter davantage encore de résultats concrets, positifs, etc., etc. Est-ce qu'on en est loin? Ou est-ce que les citoyens, citoyennes demeurent autorisés à se sentir frustrés par rapport à un temps politique qui, lui, est beaucoup plus lent par rapport à ce que devrait être le temps de l'action?
Je crois que le temps politique est plus lent que le temps de l'action. Et c'est un des paradoxes aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure l'urgence climatique, le temps où on n'en a plus. Et pourtant, l'action politique, elle doit répondre à... L'action politique étatique en particulier doit répondre à certaines garanties, parmi lesquelles, en tout premier lieu, celle de l'égalité de traitement et les exigences de l'état de droit. C'est pour moi, même dans une position où je perçois et j'ai l'intention première d'agir sur une évolution de l'activité économique pour qu'elle soit à la fois une activité économique qui favorise la prospérité de ses destinataires, c'est-à-dire de la population, mais la prospérité économique générale aussi, à la fois ça et à la fois respecter les limites de la planète, hein, eh bien, on doit garantir le respect de l'état de droit. C'est pour moi une limite infranchissable, parce que sinon on rentre, même avec de bonnes intentions, mais on sait aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions, dans des choses qui sont pas négociables pour l'État. Voilà. Maintenant, il y a toute une série de choses concrètes qu'on peut et qu'on doit faire. Dans mon département, plusieurs projets de la Chambre de l'économie sociale et solidaire après sont soutenus pour leur caractère innovant. Je défends aussi une vision de l'innovation qui doit nécessairement être une innovation durable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus soutenir des innovations qui n'auraient pas comme intrinsèquement des exigences de durabilité fortes. Il y a toutes ces innovations, ces projets d'innovation qu'on peut soutenir sous forme de projets pilotes ou d'études de faisabilité, etc. Et puis, sous l'angle de la mutualisation qu'évoquait Michel tout à l'heure, le Conseil d'État vient de déposer un projet de loi d'investissement pour soutenir la transition des entreprises vers une activité durable. L'investissement serait de 66 millions sur 10 ans et vise à contribuer au financement du renouvellement de l'appareil de production des entreprises, c'est-à-dire ce qui fait le core business de l'entreprise, dans l'idée de le remplacer s'il doit être changé et remplacé au plus haut niveau des exigences environnementales aujourd'hui, ou de le faire durer plus longtemps. Hein, donc on peut aussi subventionner le fait de dire, ben voilà, il suffit de faire ça et ça et mon appareil de production peut durer quelques années de plus, ou encore de financer des équipements mutualisés inter-entreprises. Et vraiment, l'idée, là, on est dans la phase incitation qui me semble nécessaire de mettre en place tout de suite, même si on n'est pas encore complètement au point sur les indicateurs et les exigences qui permettent de réglementer, notamment parce que dans le domaine de l'activité économique, la diversité est telle que c'est beaucoup plus complexe que de fixer des critères pour l'assainissement d'un immeuble où on peut mettre le même pour tout le monde. Donc voilà, c'est déjà des projets qui sont en cours aujourd'hui.
Fabienne Fischer, ministre en charge de l'économie et de l'emploi. Michel Bauens, théoricien du pair à pair et spécialiste de l'économie de plateforme et de l'économie des communs. On vous remercie, David et moi, d'avoir pris ce moment pour échanger autour de l'actualité genevoise et aussi des capacités de développer l'entrepreneuriat, une économie basée sur des communs. Et c'était bien tout l'objectif de la saison.
Merci.
Merci beaucoup.
Fabienne Fischer, conseillère d'État du canton de Genève en charge de l'économie et de l'emploi, et Michel Bauens, cyberphilosophe et théoricien du pair à pair, étaient les invités de Comment, le podcast d'après. Comment, un podcast d'Antonin Calderon et David Brun-Lambert, enregistré et mixé par Pierre Venet, produit par Après et Chahut Média. Merci à nos partenaires pour leur précieux soutien, la Banque Alternative Suisse et Nest, Fondation Collective. Plus d'informations sur Michel Bauens, en particulier ses écrits sur le site de la P2P Foundation, www.p2pfoundation.net. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Comment, cette fois entièrement consacré à Michel Bauens.
Comment le podcast.